Mélomanie. Mélomanie, le rendez-vous des mélomanes, une émission proposée et animée par Éric Dupri.
Bienvenue à l'écoute de Radio Présence et de Mélomanie, votre magazine de l'actualité musicale classique toulousaine et régionale. Dans quelques jours, ce sera l'été et ce sera aussi le début des ultimes représentations de la saison à l'Opéra National du Capitole. Du 20 au 29 juin, il y a 5 occasions pour découvrir la nouvelle production d'Adrienne Lecouvreur, l'opéra de Francesco Cilea sur la scène toulousaine. Nous avons la chance d'avoir aujourd'hui notre spécialiste de l'art lyrique pour nous présenter cette œuvre et sa distribution, Robert Pénavert, cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, chroniqueur pour les sites Actu Toulouse et Culture 31, ainsi que pour les journaux Côté Toulouse et La Voix du Midi. Robert est accompagné du fidèle entre les fidèles de cette émission, Serge Chauzy, l'autre cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, également chroniqueur pour le site Culture 31 et le journal La Voix du Midi. Notre trio accueille aujourd'hui une invitée d'honneur, Nadine Laurence, directrice artistique du Festival Les Voix du Vallon, dont la 4e édition se tient à Bagnères-de-Bigorre du 6 au 10 août. Mais dans les médias, nous allons revenir comme d'habitude sur l'actualité musicale récente avec Serge. Retour arrière.
Mélomanie. Retour arrière.
Bienvenue à tous les trois. Merci d'être au rendez-vous.
Bonjour.
Retour
Bonjour.
Pour commencer sur le festival Passe ton bac d'abord, qui a eu lieu les 6, 7 et 8 juin. Cette 17e édition avait pour sous-titre « À l'improviste ». Il y avait une trentaine de concerts au programme. Serge a assisté à 3 d'entre eux, dont celui de clôture où nous avons entendu une version de la Passion selon Saint-Marc. Nous allons en parler tout à l'heure, puisque c'est le luth qui va nous intéresser dans un premier temps. Un instrument qui était à l'honneur le samedi 7 juin, avec notamment un récital à l'église Saint-Pierre des Chartreux, donné par le luthiste espagnol Diego Salamanca, Serge.
Oui, en effet. Et puis, il faut rappeler qu'il existait donc un thème pour cette 17e édition, à l'improviste. Pourquoi à l'improviste ? Eh bien, parce que Michel Brun tenait à mettre en évidence l'improvisation qui a sévi pendant des siècles et jusqu'à aujourd'hui, mais en particulier à cette époque-là, puisque Bach transcrivait à peu près toutes les musiques, les siennes comme celles des autres, en particulier Vivaldi, etc. Donc, ça a été vraiment un festival avec des concerts originaux et où l'improvisation jouait un rôle important. Alors, le premier des concerts auxquels j'ai assisté, c'était donc le 7 juin à 15h à Saint-Pierre des Chartreux. Et donc, effectivement, c'est le luthiste Diego Salamanca qui a voulu jouer 3 pièces de sa propre intention d'aborder Bach au luth. Et il a joué, c'est assez paradoxal, 3 pièces de Bach dont l'origine n'était absolument pas le luth. Il a commencé d'ailleurs par le prélude de la brillante adaptation par Bach lui-même de la 5e suite pour violoncelle seul. On ne s'attendait pas à ça, mais c'était parfaitement adapté. Évidemment, c'était Bach lui-même qui avait fait la transcription. Et puis ensuite, le prélude et fugue qui a suivi, eh ben là, l'original, c'était la partita en do mineur pour clavier, du clavier au luth, après le violoncelle au luth. Et la troisième pièce, c'était la fugue de la première sonate, cette fois pour violon seul. Donc, 3 instruments différents pour les pièces originales. Et donc, ça a été vraiment un très beau moment. On a pu apprécier, d'une part, la dextérité, évidemment, de l'interprète, hein, et ce bel équilibre qu'il a réalisé entre les divers registres. Et puis, ce sens de la construction, puisque Bach, c'est une construction incroyablement élaborée. Et puis, à 18h, en l'église du Jésus, cette fois, c'était un duo entre le flûtiste Thierry Casals, qui a rejoint un autre luthiste, Frédéric Bernard, à travers des pièces d'une originalité tout à fait incroyable, puisque le luthiste a joué tantôt du luth et tantôt de la guitare, et le flûtiste a joué de 4 types de flûtes, depuis le traverso baroque jusqu'à la flûte basse impressionnante, que l'on voit très rarement d'ailleurs dans les orchestres. Donc, et alors ils ont joué d'abord, ils sont partis d'un prélude en duo pour traverso et luth, donc une œuvre originellement baroque, de Sylvius Leopold Weiss. Et puis ensuite, bah, ils n'ont pas hésité à citer Chopin, inspiré par Bach d'ailleurs lui-même, puis Debussy, lui-même inspiré par Chopin. Donc vous voyez, c'était les poupées russes en quelque sorte.
Mais on voit la filiation.
Ah oui, la filiation était tout à fait adaptée. Hein. Et il y a même eu une brève incursion dans le style de la bossa nova brésilienne. Mais oui. Et donc, c'était vraiment, on peut dire que là, l'imagination était au pouvoir.
C'est avec le père de la bossa nova, Antonio Carlos Jobim, une de ses références, c'est Chopin. Donc, vous voyez, c'était pas complètement éloigné non plus.
Mais tout ça est très logique. Et donc, ça a vraiment été très intéressant de suivre à la fois ces deux concerts.
Eh bien, pour illustrer cette parenthèse consacrée aux luttes lors de Passe ton bac d'abord 2025, nous allons écouter un extrait du CD Bac aux luttes enregistré par Diego Salamanca avec cette interprétation du prélude de la partita en do mineur BWV 997. Le prélude de la partita en do mineur BWV 997 de Bach, un extrait du CD Bach aux luttes enregistré par Diego Salamanca, qui était donc au programme de son récital le samedi 7 juin à l'église Saint-Pierre des Chartreux. Le concert de clôture maintenant, donné le dimanche 8 juin en fin d'après-midi à la Halle aux Grains par l'ensemble baroque de Toulouse, sous la direction de son fondateur Michel Brun. La Passion selon Saint-Marc de Jean-Sébastien Bach était l'unique œuvre au programme. Il est vrai qu'elle dure 2 heures, ça suffisait. Il en existe plusieurs versions, puisqu'il a fallu la reconstituer pour la faire revivre et la recréer à partir de ce qu'on a pu retrouver de la partition d'origine. Et là, Serge, il s'agissait d'une version que nous devons au travail d'un passionné, Freddy Eschelberger, qui officiait d'ailleurs au Clavecin lors de ce concert.
Exactement, il a fait un travail extraordinaire. Alors, il faut dire que les airs et les chorales, les interventions du chœur, avaient été utilisées par Bach dans d'autres œuvres.
Oui.
Donc, il a suffi de les identifier pour les rassembler et pour faire la partie chantée de cette passion. Mais par contre, on n'avait absolument rien sur les récitatifs. Ça a été bien expliqué par Michel Brun, grand communicant, évidemment, au cours d'un atelier qui précédait l'exécution de l'œuvre. Et là, on s'est rendu compte que c'était grâce au fait que l'on a retrouvé le texte, le livret de la Passion, selon Saint-Marc, à Saint-Pétersbourg. Alors ça, c'est quand même incroyable. Freddy Eschelberger a donc dû composer la musique des récitatifs. Ce qu'il a fait avec un style, c'était parfait, quoi. On avait l'impression que c'était Bach lui-même. Hein. Il a très bien adapté les tonalités, le débit de ses récits, ce qui est très important. Et donc, on a eu droit à une sorte d'immense puzzle musical qui fonctionnait parfaitement. Hein. On peut dire hein, que cette Passion selon Saint-Marc, on avait l'impression
non, c'est une œuvre magnifique,
qu'on l'entendait magnifique à sa création, quoi, en quelque sorte. Donc vraiment un beau moment pour ces 2 heures et quelques de musique.
C'est la durée de la Saint-Jean, hein, grosso modo.
Exactement, exactement. Avec tout de même une chose importante pour la compréhension du public, d'une part la présentation qu'en avait faite Michel Brun, mais ensuite le fait que tout était surtitré. Et donc, on pouvait suivre exactement aussi bien les récitatifs, les chorales, les chœurs, les interventions solistes sur la projection des...
Au-dessus de l'orchestre.
Au-dessus de l'orchestre. Donc ça, c'est intéressant. Et je vois que cette utilisation du surtitrage, qui va à la fois des récitals de chant au Théâtre du Capitole à ce genre de concert, ça commence à prendre.
Oui, hein, oui, ça se
et c'est vraiment, le public le demande. Hein.
Ah, c'est quand même bien de pouvoir suivre
de
l'action,
ce
si
qui
on peut
se
dire.
Dit, hein, oui. Donc vraiment, très très bien. Et alors, il faut parler des solistes, évidemment. Alors, le chœur et l'orchestre ben, est rompu à l'exercice, c'était vraiment
c'était très bien.
Très très bien.
Ils ont dû travailler beaucoup.
Mais
beaucoup.
Ils ont dû, oui, énormément travaillé.
Michel Brun l'a précisé à la fin.
Ah oui, 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 absolument. Il faut commencer quand même par le rôle essentiel de l'évangéliste, qui était tenu à la fois avec intelligence et sensibilité par quelqu'un que l'on connaît,
oui.
Vincent Lièvre-Picard,
oui.
Bon, qui est presque un évangéliste attitré, en l'occurrence. Très belle
sa
interprétation.
Sa diction est vraiment formidable.
Ah oui, oui, absolument, absolument. Puis la progression de cette marche vers la mort du Christ, c'était vraiment très très beau. Et puis les autres chanteurs ont apporté à la fois leur engagement aux arias, aux échanges, aux scènes dramatiques évoquées. Alors le Christ était incarné par Vincent Le Texier avec un timbre très profond et très sonore, je dois dire. Hein. Et il y avait une autre basse excellente qui était Pierre-Yves Krah. Et alors qui chantait
jeune chanteur.
Un grand chanteur.
Dont nous allons parler d'ailleurs un peu plus tard dans cette émission.
Exactement. Donc il chantait avec finesse et beaucoup de nuances à la fois les rôles de Pierre et Pilate et les interventions solistes de l'autre basse. Et il y avait également le ténor François-Nicolas Gélot qui a très peu d'arias d'intervention. Hein. Et puis ensuite, il y avait les trois dames.
Deux
dames. La soprano Clémence Garcia, que l'on connaît bien avec ce timbre lumineux. Et puis la mezzo-soprano, donc...
Caroline
Champitursin, qui est vraiment, alors elle, très, très impliquée.
Toujours très engagée.
Ah, très engagée dans ses arias, donc voilà. Et alors, je voudrais quand même souligner un moment qui, pour moi, était l'apogée de ce concert. C'est un sublime dialogue entre deux duos. Un duo instrumental, un duo vocal. Le duo vocal, c'était Clémence Garcia et Pierre-Yves Krah, d'une part. Et puis, il y avait un duo instrumental qui réunissait le oboïste Xavier Miquel et le bassoniste Laurent Lechenadec. C'était vraiment un grand moment
oui.
De musique et d'émotion. Hein.
Oui, oui,
je crois qu'on l'a partagé.
Très, très beau. Je pense que tout le monde a bien,
ah, oui, oui, là,
a bien relevé ce moment-là.
On était ailleurs.
Oui, oui,
là,
oui.
Hein.
Ah, oui,
oui. Oui, c'était magnifique. Et donc, le chœur a rempli ses rôles multiples, puisqu'il a plusieurs rôles, hein, à la fois pour les chorales et pour les interventions dramatiques, avec le fait que l'on a reconnu au passage la reprise d'un célèbre choral de la Passion selon saint Matthieu, « Au Haupt voll Blut und Wunden », qu'on a reconnu là et qui a été réintégré dans cette Passion. Et ça a été ovationné vraiment par l'ensemble de la halle au grain.
Oui, et la halle était bien remplie parce que c'était un dimanche de Pentecôte. Hein.
Exactement, oui, oui, oui.
En pleine finale de Roland-Garros,
en plus.
Qui a duré longtemps.
Oui, oui, voilà. Donc, vraiment un beau moment hein, et une découverte. Hein.
Et il ne fallait pas rater l'occasion parce que la Saint-Marc, je doute qu'on la réentende de sitôt.
Peut-être qu'on aura un jour la Saint-Luc.
Qui sait ? Nous allons écouter le début de cette Passion selon Saint-Marc de Jean-Sébastien Bach dans la version du livret de 1744, celle sur laquelle a travaillé Freddy Eschelberger pour le concert de l'ensemble baroque de Toulouse. Il s'agit du chœur « Geh Jesu geh zu deiner Pein ». Thank you. Va Jésus, va ton supplice, premier chœur de la Passion selon saint Marc de Jean-Sébastien Bach dans la version du livret de 1744 et donc dans celle de Freddy Eschelberger que nous avons entendu le 8 juin à la Halle aux Grains pour le concert de clôture de Passe-ton Bac d'abord 2025, interprété par l'ensemble baroque de Toulouse. Bravo aux musiciens, bravo aux chanteurs et aux choristes et bravo à Michel Brun pour ce magnifique bouquet final de la 17e édition du festival. Et oui, déjà, fin de cette première partie d'émission, une petite pause musicale et on se retrouve avec Serge Chosy, Robert Pénavert et Nadine Laurens pour l'agenda de Mélomanie. Restez bien à l'écoute de Radio Présence, à tout de suite.
Mélomanie, l'agenda.
Et l'agenda de la semaine est essentiellement occupé par les premières représentations d'Adrienne Lecouvreur au Théâtre du Capitole. Il y en a donc 5 entre le 20 et le 29 juin pour cette nouvelle production de l'opéra de Francesco Cilea, mise en scène par Ivan Stefanuti et dirigée par Gianpaolo Bisanti. Robert Pénavert va nous en dire plus dans quelques instants, mais comme il en a l'habitude, il va nous faire un petit rappel historique concernant la création de cette œuvre à Toulouse. Il va être court parce que la création, ben, ça reste l'unique représentation
oui,
de
voilà,
cette œuvre sous nos latitudes.
En octobre 1987, Serge, tu te souviens ?
Absolument.
Voilà, c'était la première arrivée sur la scène du Capitole du chef-d'œuvre de Francesco Cilea. Alors, Francesco Cilea, c'est pas un compositeur très très ancien, puisqu'il est décédé en 1950. Mais il n'empêche qu'il est passé à la postérité, en particulier pour deux choses. Son opéra, Adrienne Lecouvreur, et puis un air extrait d'un opéra qui est quasiment jamais donné, qui s'appelle L'Arlésienne. Dans cet opéra, il y a un air pour ténor absolument magnifique, qui figure quasiment dans tous les concours de chant. Mais la grande œuvre de Francesco Cilea est incontestablement cette Adrienne Lecouvreur.
Ouais, voilà. C'est l'avant-dernier de ces 5 opéras, et
tous les
créé
autres
par Caruso tout de même à l'époque.
Oui, tous les autres opéras sont tombés dans l'oubli.
Ouais.
Je ne comprends pas très bien, parce qu'alors effectivement, il se trouve au milieu de ce qu'on appelle, plus ou moins à juste titre d'ailleurs, l'école vériste.
Vérisme, oui.
Puisque donc il est né en 1866, et comme je disais précédemment, il est décédé en 1950, donc il a été un contemporain de Puccini, de Leoncavallo, de Mascagni, de Zandona, etc. Et il faut reconnaître que certains de ces compositeurs que je viens de citer ont été loin d'avoir la subtilité musicale de Cilea. Serge, qu'est-ce que
c'est vrai, c'est tout à fait juste. Oui. Non, il y a un raffinement dans l'orchestration qui est très particulier.
Voilà. Et ce qui fait que je ne comprends pas pourquoi le Théâtre du Capitole a attendu 1900. Oui, je sais très bien, ils ne peuvent pas tout donner en permanence, mais enfin, ça fait quand même, c'est une œuvre
qui
quand même, à mon avis, fondamentale dans l'histoire de l'opéra.
Mais enfin, 85 ans pour l'avoir.
Christophe Gristy, qui est un grand amateur d'opéra et de véritables grandes œuvres, a décidé de le reprogrammer cette année, donc 40 ans après l'entrée au répertoire, et il le fait, on va le dire très clairement, à majesté, parce qu'il le fait premièrement dans une nouvelle production, entendons-nous bien, pour le Théâtre du Capitole. Ce n'est pas une nouvelle production mondiale.
Oui, puisque elle a été donnée ailleurs.
Cette production a été créée la première fois, c'est une production italienne qui date de 2002, mais qui est tellement belle qu'elle est reprise partout. Parce qu'elle est magnifique, elle nous raconte vraiment l'histoire. Alors, l'histoire, c'est quoi ? C'est l'histoire, qui est un peu légendée, on va dire, d'une actrice de la Comédie française, mais qui a véritablement existé, qui s'appelait Adrienne Lecouvreur, qui est née en 1692 et décédée en 1730. Et dans l'histoire qui nous est contée, dans cette légende qui nous est contée, Adrienne était tombée amoureuse d'un bel officier qui était Maurice de Saxe, qui était connu parce que c'était un très bel homme, semblerait-il. En fait, en gros, c'était un arriviste, mais qui était également dans les petits papiers de la princesse de Bouillon. Enfin, la princesse de Bouillon a également existé. Elle s'appelait en réalité Françoise de Lorraine. Elle n'était pas princesse, elle était duchesse de Bouillon. Et ces deux femmes se disputaient le même homme. Et alors, Maurice de Saxe, en fait, ne savait pas de quel côté se diriger parce qu'il avait des intérêts des deux côtés. Il avait des intérêts politiques et personnels d'un côté, puis des intérêts, on va dire, un peu sentimentaux de l'autre. Voilà. Bon, résultat, ça se finit très mal, puisque la légende dit que quelqu'un aurait envoyé dans sa loge, après une représentation, un bouquet de fleurs à Adrienne le Couvreur, mais que ce bouquet de fleurs contenait une senteur empoisonnée. Alors, le duc de Bouillon, en fait, était un alchimiste. Alors, toutes les hypothèses peuvent être émises. Est-ce que ce serait une vengeance sentimentale de la part de la duchesse de Bouillon dans l'opéra? On ne sait pas trop. Peu importe, en définitive. Dans tous les cas, Francesco Ciglia en a tiré une œuvre magnifique qui est en fait, comme ça se passe en grande partie dans les coulisses de la Comédie française, c'est une mise en abîme du théâtre, dans le théâtre, puisque donc on a un régisseur, on a tout un tas de petites mains du théâtre qui ont des rôles à jouer. C'est vraiment une œuvre très subtile, très fine, mais en même temps, c'est un grand opéra. Adrienne a deux airs qui figurent parmi les plus beaux airs qui aient jamais été écrits pour une cantatrice. Voilà. Donc c'est un opéra avec une orchestration absolument extraordinaire, comme je le disais précédemment, d'une subtilité. Et je suis vraiment heureux que Christophe Grissi ait confié la partition à Gianpaolo Bisanti, qui est un spécialiste de ce répertoire. Et effectivement, il faut l'être, parce que c'est extrêmement subtil et virtuose. Alors, les interprètes, c'est l'une des grandes Adriennes, peut-être la plus grande Adrienne du moment, que Christophe Grissi. De toute façon, je pense que sans elle, il n'aurait pas monté. La soprano arménienne Liane Aroutounian, qui va avoir le plaisir et pour nous l'immense honneur de nous chanter cette Adrienne. Elle va avoir à affronter, mais alors la volcanique mezzo-roumaine Judith Coutassi. Elle va faire Bouillon, voilà. Et alors, ça, je peux vous dire, elle, je l'ai entendue il y a quelques mois au Metropolitan, elle chantait Amneris d'Aïda, et je peux vous dire que on entendait qu'elle, et la scène du jugement a été mais torrentielle. Enfin, j'ai confiance en Liane Aroutounian, il n'y a pas de problème, mais le troisième acte, l'affrontement entre Adrienne et Bouillon va être quelque chose dont on se souviendra. Et puis au milieu, il y a Maurice de Saxe, et Maurice de Saxe, c'est le ténor argentin José Cura, qui a été un immense Othello, qui a été un immense Don José, à l'Opéra de Paris, mais qui était absolument tellurique également. C'est un véritable artiste. Hein. José Cura, c'est vraiment une personnalité à part dans le monde de l'opéra. Et il fera ses débuts, en fait, dans le rôle. Alors, comme il me disait précédemment, puisque j'ai eu le plaisir d'interviewer, il a chanté quasiment tout le rôle, mais par petits bouts, mais jamais le rôle sur scène est vraiment intégralement. Voilà. Donc nous allons le découvrir. À côté, il y a tout un tas de rôles, on ne va pas parler de tous les rôles, mais enfin quand même, il faut en souligner deux clés de fa. Il y a le rôle de Michonnet, qui va être tenu par Nicolas Alaïmo.
Oui, c'est une petite connaissance.
C'est pas du luxe, c'est pas très loin quand même. Et puis alors dans le prince de Bouillon, parce qu'il faut en venir
encore
au prince
une
de Bouillon.
Connaissance.
Alors là, c'est une vieille connaissance de la maison. Et combien on aime le réentendre chaque année, parfois plusieurs fois.
Oui.
C'est Roberto Scagnuzzi, évidemment. C'est la statue du commandeur de l'opéra aujourd'hui, de l'opéra italien aujourd'hui. Alors, c'est peut-être le moment de le dire, pourquoi pas.
Hein. Allez-y.
L'œuvre n'est pas du tout connue. Les vacances sont déjà là.
Oui. Le beau temps.
Bon, le beau temps en plus. Le public, malheureusement, est un peu timide sur cette production. Il va le regretter longtemps. Je parle des personnes qui ne viendront pas. Alors du coup, pour faire plaisir à un maximum de public et en même temps pour faire plaisir aux chanteurs, parce que les chanteurs aiment bien
chanter devant une salle pleine,
eh bien, le Capitole a décidé ce matin d'offrir 50% de réduction sur tous les spectacles pour toutes les places.
Toutes les places, où qu'elles soient, où qu'elles se trouvent, c'est-à-dire que les meilleures comme celles qui sont tout en haut, c'est moins 50%.
Voilà.
Donc vraiment,
pour toutes
là,
les
il
ne
faut pas rater l'occasion. Hein.
Pour toutes les représentations, franchement...
Vous pourrez même en voir deux, si vous voulez.
Vous pourrez en avoir deux pour le prix d'un.
Voilà, pour le prix d'une.
C'est le cas de le dire. Alors, c'est incompréhensible, mais en même temps, bon, on comprend. Voilà, l'année prochaine, la saison se termine avec Carmen, il y aura moins de sujets.
Oui, oui, oui.
C'est sûr.
C'est certain.
Mais Adrienne...
Non, mais il faut... Adrienne Le Couvreur, deuxième production... Bah, en 120 ans depuis la création, plus de 120 ans même. Donc je pense que c'est un peu dommage de passer à côté.
Voilà.
Voilà, donc il y aura évidemment l'Orchestre du Capitole dans la fosse, le chœur du Capitole sur scène et des danseurs et danseuses du ballet.
Exactement, vous avez raison, Eric. J'avais oublié de le citer, puisque donc, au deuxième acte, il y a une partie dansée.
Oui.
Ou au troisième acte. Et donc, ben.
Non,
tout
mais
simplement,
c'est vraiment un spectacle total.
Au lieu de faire appel un peu, comme cela arrive souvent, dans les spectacles d'opéra dans lesquels il y a une partie dansée à des troupes un peu externes, ben là, Christophe Grissi a décidé de demander à nos danseurs ben, de se mettre au travail pour ce spectacle. Voilà.
Il faut donc, utiliser alors, toutes les forces
c'est
vives
de
la maison.
Parce que le corps de ballet du Capitole, c'est pas rien. Hein.
Absolument.
Voilà.
Nous allons avoir l'occasion d'écouter Liana Arutunian dans un des airs célèbres d'Adrienne Le Couvreur, Ecco respiro appena lo son l'umile Ancella. Liana Arutunian chantait l'air Ecco respiro appena lo son l'umile Ancella d'Adrienne Le Couvreur. Vous pouvez donc retrouver la grande soprano arménienne dans un de ses rôles favoris du 20 au 29 juin au Théâtre du Capitole lors des 5 représentations de la nouvelle production de l'opéra de Francesco Cilea mise en scène par Ivan Stefanuti et je le répète, moins 50% sur toutes les places, précipitez-vous. À nous, Nadine Laurence, pour le Festival des Voix du Vallon 2025 à Bagnères-de-Bigorre. Vous en assumez la direction artistique et c'est la 4e édition. Elle a lieu du 6 au 10 août avec 5 concerts à la Halle au Grain et au Casino de Bagnères. Et comme l'indique son nom, c'est la voix et même les voix qui sont au cœur de la programmation de cette manifestation.
Oui, alors ce festival est parti de la volonté de la ville de Bagnères. et d'un petit groupe de passionnés d'art lyrique de refaire vivre l'art vocal à Bagnères-de-Bigorre. Parce qu'à Bagnères-de-Bigorre, il y a eu à l'époque de Tony Poncé un conservatoire de chant. Et c'est d'ailleurs en lien avec l'épouse et la fille de Tony Poncé que ce festival a vu le jour. Donc, je suis bagnéraise d'origine, même si toute ma carrière, toute ma vie, je l'ai faite à Toulouse en tant que musicienne. Et lorsqu'on m'a proposé de donner un petit coup de main à ce festival, bien évidemment que je l'ai accepté avec joie. Et donc, mon rôle dans ce festival est de travailler la programmation artistique de chaque édition et de mettre en avant, ce qui m'importe beaucoup, c'est de mettre en avant déjà des chanteurs de notre région, de belles voix, de grandes voix.
Et nous en avons.
Voilà, de voix en devenir aussi, puisque chaque année, nous invitons un jeune talent.
Oui, il y a un accent mis quand même sur les jeunes chanteurs.
Les jeunes chanteurs, jeunes chanteuses, la place des chanteuses aussi dans le milieu lyrique.
Ah, là, on va le voir. Hein,
voilà.
Ils ont une belle place.
Et également d'essayer de désacraliser un petit peu l'art lyrique. Parce que vous allez me dire, Bagnères-de-Bigorre, voilà, un festival d'art lyrique, est-ce que les gens vont y venir ? C'était vraiment la question qu'on se posait la première année. Et pour cela, on a essayé de communiquer, de mettre des œuvres. J'allais dire que tout public qui pousse la porte de la Lougrin ou du Casino peut venir écouter. On a essayé aussi, notamment l'année dernière, notre parrain était Omar Hassan. Et on a fait un parallèle avec le Stade Bagnères, l'école de rugby du Stade Bagnères, qui a été une grande équipe de rugby dans les années 80.
Ils ont fait deux finales de championnat de France, ils ont perdu en 79, en 80. Je me rappelle, j'étais devant ma télévision.
Oui, oui, oui.
Bon, ça date un peu, mais il y avait effectivement un très grand club de rugby à Bagnères.
C'est ça. Et donc, pendant le festival, l'année dernière, Omar Hassan est même allé faire un entraînement aux jeunes de l'école de rugby. Et le lendemain soir, les Voix du Vallon ont invité les 50 jeunes de l'école de rugby à venir au concert d'Omar Hassan, qui était un concert autour du tango avec orchestre et Omar. Et cette année, nous avons voulu essayer de travailler avec le centre de loisirs. Bon, ça n'a pas été possible, c'est reporté à l'année prochaine. Mais on va quand même aller faire une petite représentation dans une maison de retraite où les personnes âgées là-bas préparent un petit air d'opérette pour chanter avec le cœur éphémère de ce festival. Puisqu'on a ouvert aussi, pour le off du festival, on invite un cœur éphémère à se produire.
C'est un vrai projet culturel de territoire, comme on dit aujourd'hui. Il y a 5 concerts cette année. Ça commence le mercredi 6 août à 21h à la Lougrin avec un concert d'ouverture donné par 4 chanteurs qui vont interpréter des airs de Carmen, on y revient, accompagnés par un orchestre qui sont ces 4 solistes et la formation qui va les accompagner.
Alors, avant de parler des solistes de ce concert, je voudrais remercier chaleureusement notre marraine 2025 qui sera Céline Laborie. Céline Laborie a été invitée lors des 2 dernières éditions et elle a enchanté notre public jusqu'au maire de Bagnères. Et donc, cette année, c'est elle qui est là.
C'est toujours bien d'enchanter le maire de la ville où a lieu le festival.
Et j'en profite pour vraiment remercier la ville de Bagnères-de-Bigorre qui nous soutient vraiment dans ce festival et qui nous accompagne grandement depuis la création.
Vous ressuscitez une tradition qui s'était perdue, si j'ai bien compris.
C'est ça. Donc Céline Laborie, donc avec Céline, nous avons concocté ce programme et nous avons donc depuis le début du festival, Jean-Guy Olive qui nous accompagne, qui jusqu'à présent nous accompagnait avec l'orchestre de l'OUT, qui est son orchestre ici toulousain. Mais là, on a voulu un petit peu orienter différemment et on a créé un orchestre du festival. Et cet orchestre du festival mélange des musiciens professionnels, certains même de l'orchestre du Capitole, et des musiciens amateurs de très bon niveau. Et donc cet orchestre va se produire au concert d'ouverture et au concert de clôture. Donc le concert d'ouverture sur les airs de l'opéra Carmen, avec une Carmen que l'on ne présente pas parce qu'on la connaît tous, on l'entend dans de magnifiques productions, c'est Florian Hassler, avec une Michaela qui sera Émilie Rosebrie, un Don José Julien Dran, ténor aussi bien connu, et un Escamillo qui est notre cher Julien Véronèse, qui est professeur au conservatoire ici à Toulouse.
Je ne sais combien de fois sur la scène du théâtre du Capitole.
Voilà. Donc ce sera ce concert d'ouverture avec une soirée autour du thème de l'Espagne, puisqu'il y aura une restauration sur place pour le public, il y aura une paella qui accueillera le public, et il y aura même une petite démonstration de Sévillane.
Et l'Espagne n'est pas loin. De Bagnères-de-Bigorre, exactement. Pour illustrer ce programme, nous allons écouter Florian Hassler chanter un des nombreux airs célèbres de Carmen, les tringles des Sistres Tintaient.
Les anneaux de cuivre et d'argent reluisent sur les peaux bistrées d'orange.
Tringle des Sistres, Tintet, air extrait de Carmen, chanté par Florian Hassler, certainement un de ceux que l'on va entendre lors du concert d'ouverture du mercredi 6 août à 21h à la Halle au Grain de Bagnères-de-Bigorre. Le lendemain, le jeudi 7 août, toujours à 21h, mais au Casino, on retrouve Mademoiselle Céline Laborie et Émilie Rosebry, accompagnées par la pianiste Edwige Geoffroy pour une soirée Singing Broadway. Entre filles, semble-t-il. Bon, non, les hommes sont invités quand même.
Oui, oui. Ouf. Oui, donc cette soirée, on a souhaité la faire au Casino pour garder tout à fait le caractère et le style cabaret. Donc il y aura, le public sera accueilli par un petit cocktail. Ensuite, il y aura des petites tables rondes avec des luminiums dessus. La salle sera dans le noir, bien évidemment. Et ensuite, il y aura le jeu de lumière, le jeu de scène des chanteuses. Et évidemment, ben, on est de l'autre côté de l'Atlantique. Là, on quitte l'Espagne pour partir sur un autre continent. Et nous aurons des extraits de Candide, West Side Story, Fantôme de l'Opéra, My Fair Lady. Voilà, j'en dis pas trop.
Il y aura du Gershwin, je suppose.
Il y aura du Kurzweil. Il y a du Gershwin, il y a du Kurzweil. Voilà. Et donc, par contre, là, je lance un appel au public qui veut venir à ce concert. On a un nombre de places réduit parce que le Casino n'est pas aussi grand que la
Halle-au-Grain.
Donc, il y aura 280 places seulement. Les premiers qui réserveront seront les premiers servis.
Et Émilie Rosebry est franco-américaine.
Exactement.
Elle est aussi un petit peu dans son élément. D'ailleurs, on l'avait entendu, on n'y était pas, Serge, pour le concert du Nouvel An 2024, mais c'est elle qui avait chanté, accompagnée par l'Orchestre National du Capitole à la Halle au Grain, dirigé par Hervé Niquet. Et donc, Émilie Rosebry avait chanté, entre autres, « It's Wonderful » de George Gershwin.
You thrill me through with a tender passion. When you said you care, imagine my emotion. I swore then and there permanent devotion. You make all other men seem long. Just you alone fill me with awe. It's marvelous. You should care for me. It's awful nice. It's paradise. It's what I love to do.
It's Wonderful de George Gershwin, chanté par Émilie Rosebry, accompagné par l'Orchestre National du Capitole, dirigé par Hervé Niquet. C'était lors du concert du Nouvel An 2024 à Toulouse. Il se peut aussi que cet air soit au programme du concert Singing Broadway du jeudi 7 août à 21h au Casino de Bayard de Bigorre. Et le vendredi 8 août, on retourne à la Lograin, encore à 21h, pour une soirée lyrique sous-titrée va piano, où ce sont encore les dames qui tiennent la vedette. Edwige Geoffroy va accompagner 5 chanteuses que Nadine va se faire un plaisir de nous présenter. Bon, il y en a quelques-unes qu'on a déjà citées.
Voilà, donc les 5 chanteuses, ce va piano, ça va être une création. Ça sera la première représentation lors de notre festival. Et grâce à Céline Laborie, on va avoir la primeur et je crois qu'elles sont toutes les 5 ravies de nous présenter ce nouveau spectacle qui a été mis en scène par Julie Safon, qui est donc une metteuse en scène et une comédienne. Et ce spectacle, pourquoi il s'appelle Va piano spectacle lyrique ? Parce que, en fait, tout au long du spectacle, il y aura un enchaînement d'œuvres du répertoire, bien évidemment, du grand répertoire lyrique. Mais c'est un petit peu ce qui se passe dans la tête de la pianiste. Et les chanteuses vont retraduire les émotions que la pianiste ressent lorsqu'elle interprète telle ou telle œuvre. Donc chacune aura un rôle bien précis, une émotion qui lui sera attribuée. Et au fur et à mesure de l'avancée du spectacle, eh ben, on découvrira ses émotions. Et évidemment, dans les émotions, il y aura la colère, il y aura la joie, il y aura la peur. Mais à la fin, c'est un spectacle de résilience. Et tout ça, c'est ce que la pianiste a dans sa tête tout au long du spectacle.
Oui, alors j'ai dit 5 chanteuses, pardon. Il y a une pianiste et 4 chanteuses.
Voilà.
Donc Céline Laborie,
oui.
Soprano, Sonia Ménène, soprano, on a 2 toulousaines.
Hein. Oui.
Cécile Puyavant en mezzo-soprano et Lucille Verbizier, mezzo-soprano, donc Julie Savon met en scène ce spectacle, cette création. Alors, je ne sais pas ce qu'elles vont chanter évidemment, mais je voulais vous faire écouter la voix de Céline Laborie. On l'écoute chanter un air de Blanchen dans L'Enlèvement au Sérail, l'opéra de Mozart. Durch Sachlichkeit und Schmeichel, air de Blanchen dans L'Enlèvement au Sérail, chanté par Céline Laborie, l'une des 4 chanteuses qui se produisent lors de la soirée lyrique Va piano du vendredi 8 août à 21h à la Halle au Grain de Bagnères de Bigorre. Le samedi 9 août, retour au casino, mais à 18h, où vous proposez le concert off du festival avec une participation au chapeau. Il est dédié à l'opérette française et proposé par la Fabrique du Chœur d'Opéra. De quoi s'agit-il précisément, Nadine ?
Alors, la Fabrique du Chœur d'Opéra, nous avons souhaité permettre à tous ceux qui avaient envie de chanter de venir nous rejoindre. La première édition a eu lieu l'année dernière. On a renouvelé l'expérience parce qu'on a eu un beau succès et surtout le chœur a eu un très très beau succès de la part du public, a été très applaudi. Et donc cette année, la Fabrique Chœur d'Opéra se met en place. Il y a 45 chanteurs inscrits dans les quatre pupitres et c'est un chœur qui va répéter toute la semaine pour se produire le samedi, le 9 août au Casino de Bagnères. Et le choix qu'a fait Caroline Petit-Jean-Walex, qui est chef de chœur dans les Yvelines, le choix qu'elle a fait, c'était l'opérette française. Donc il y aura différents extraits d'opérette. Et ce sera un petit concert d'une heure, ouvert à toute la population, à tous ceux qui veulent venir écouter et participer à l'opérette.
Le samedi 9 août à 18h au Casino pour ce concert off du festival et puis concert de clôture le dimanche 10 août à 21h à la Halle aux Grains pour une soirée de gala autour de grands airs d'opéra. Qui et que va-t-on y entendre cette fois-ci, Nadine?
Alors,
ça va être très varié, je crois. Hein.
Très varié, voilà. Qui on va entendre? Notre marraine, bien évidemment, qui participe à ce concert de clôture. Tous les ans, donc, nous, comme je l'ai dit, nous accueillons des jeunes talents. Cette année, notre jeune talent, vous la connaissez bien aussi, c'est une Toulousaine, Juliette May, qui a été révélation des Victoires de la
nous
musique.
Nous avons souvent, déjà, malgré son jeune âge, parlé d'elle dans cette émission.
Voilà.
Et notamment à l'occasion de sa Victoire de la musique classique.
Exactement.
En 2024,
c'est
où elle
ça.
Avait reçu donc, la victoire de la révélation artiste lyrique de l'année.
Donc on est ravis d'accueillir Juliette à Bagnères. Nous aurons également Mathieu Justine, qui est un ténor parisien, mais bien connu aussi du grand public d'opéra. Anas Seguin, que l'on va découvrir à Bagnères, on ne l'a encore jamais entendu.
Très jeune chanteur. Hein.
Oui, et très prometteur aussi. Et nous allons retrouver alors notre jeune talent 2024, qui va être notre basse à ce concert.
Dont nous avons parlé en première partie d'émission.
Dont
oui,
Serge
oui.
a déjà parlé.
Oui, oui.
Qui s'appelle Pierre-Yves Krah, qui revient donc cette année, non plus en jeune talent, mais en vraiment talent affirmé, avec sa magnifique
et
voix de
basse.
Grand talent. Et ils seront donc accompagnés par l'orchestre du festival, sous la direction de Jean-Guy Olive. Et ils nous interpréteront les grands airs d'opéra, de Mozart à Gounod, de Donizetti à Rossini, Verdi, Puccini et bien d'autres. Et là aussi, on laisse la surprise pour que le public vienne découvrir ce concert de gala.
C'est vraiment la Dream Team, ce concert de gala, que ce soit pour les chanteurs, l'orchestre et puis la programmation qui est magnifique. Pour terminer cette présentation de la 4e édition des Voix du Vallon, nous allons écouter Juliette May, on ne peut pas faire autrement, dans un air de Cenerentola de Rossini, Naquit à la Fano. Oh! Naki alla fano, air de Cenerentola, chanté par Juliette May, qui participe donc au concert de gala qui clôture la 4e édition des Voix du Vallon, dimanche 10 août à 21h à la Halle aux Grains de Bagnères-de-Bigorre. Nadine, vous vouliez procéder à quelques remerciements avant qu'on termine l'émission.
Oui, merci Eric. Je voulais vraiment remercier très sincèrement toute l'équipe des bénévoles des Voix du Vallon autour de son président Didier Brunschwick, qui œuvre toute l'année, parce que comme je l'ai dit en début d'émission, moi je suis ici à Toulouse, donc peu à Bagnères, et ils font un magnifique travail à Bagnères pour permettre que ce festival ait lieu dans les meilleures conditions possibles. Donc je leur dis un grand merci.
Eh bien, on les remercie aussi au passage. Je rappelle que le festival 2025 a lieu du 6 au 10 août avec le très beau programme et les merveilleux chanteurs et chanteuses qui vous ont été présentés lors de cette émission. Le détail de la programmation et la billetterie sont en ligne à l'adresse www.lesvoixduvallon.fr. Je rappelle d'autre part que la nouvelle production d'Adrien Lecouvreur, l'opéra de Francesco Cilea, est à découvrir au Théâtre du Capitole lors de 5 représentations du 20 au 29 juin. Liana Aroutounian y tient le rôle-titre et la mise en scène est signée Ivan Stefanuti. Il reste des places que vous pouvez acheter pour 50% de moins que le tarif normal. Réservation sur le site www.opera.toulouse.fr. Je remercie Serge Chauzy et Robert Pénavert pour leur assistance précieuse dans l'animation de ce numéro. Et je remercie Nadine Laurence d'être venue nous présenter le festival 2025 des Voix du Vallon. Merci également à Coraline Camebrac qui a réalisé ce numéro aujourd'hui. Podcast disponible et téléchargeable dès maintenant, comme d'habitude, sur le site web de Radio Présence. Et je remercie enfin les fidèles et les nouveaux auditeurs de Méliomanie. Excellente semaine musicale à tous.